Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Nous allons lire le texte de la prédication dans le livre du Cantique des Cantiques, au chapitre 2, à partir du verset 8, jusqu'au chapitre 3, au verset 5. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 8. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle au fond des biches. Le voici, il se tient derrière notre mur. Il observe par la fenêtre, son œil brille au treillis. Il prend la parole, mon bien-aimé. Il me dit, « Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens. Car voilà l'hiver passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Dans le pays, les fleurs paraissent, le temps de psalmodier est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Le figuier forme ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens, ma colombe, dans le creux des rochers, dans le secret des escarpements. Fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est charmant. Saisissez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, alors que nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Avant que souffle la brise du jour et que les ombres fuient, retourne, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle au fond des biches sur les montagnes découpées. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai donc et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus jusqu'à ce que je l'ai introduit dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Quelle joie d'entendre la voix de la personne que l'on aime le plus. Mais s'il n'y a pas de son, nous n'entendons rien. Et si nous ouvrons la parole de Dieu pour y entendre la voix de notre Dieu et que nous la cherchons sans l'aide du Saint-Esprit, c'est comme si nous cherchions à entendre sa voix sans le son. Nous ne pourrions rien capter. Nous comptons donc sur le Saint-Esprit ce matin pour comprendre sa parole, pour la saisir, ou plutôt même pour en être saisi par la grâce de Dieu. Dans un monde dont la pensée sur la sexualité est complètement tordue depuis la chute, dans une société qui ne voit plus le mariage comme le seul endroit pour une vie sexuelle active dans la bienveillance et le don de soi, dans un contexte qui fait croire que Dieu est contre le plaisir conjugal, il est important et utile de se tourner vers la parole de Dieu et le Cantique des Cantiques. Ce livre permet de comprendre que Dieu aime le plaisir conjugal, que c'est pur, qu'il l'encourage tout en montrant que c'est un cheminement dans le respect et la recherche du bien de l'autre. Cet écrit contenu dans le livre saint nous aide à comprendre que cette relation intime du couple, qui est une manifestation de l'unité, une des manifestations les plus puissantes de l'unité que nous pouvons vivre en tant qu'humains, lorsque c'est bien vécu, est ultimement en fait un indicateur qui pointe vers la relation avec le Créateur rédempteur, Christ, notre époux et son épouse, l'Église. Alors ce matin, nous continuons l'étude du livre du Cantique des Cantiques, Comme nous l'avons vu, c'est un chant, hein, pour ceux peut-être qui arrivent maintenant dans ce livre, hein, c'est un chant qui nous permet de comprendre que bien des images sont employées pour s'exprimer. Et c'est particulièrement approprié pour décrire ce qui est ressenti dans des situations. Deuxièmement, c'est un chant d'amour entre deux personnes qui s'aiment, qui se répondent, avec parfois l'intervention d'un cœur ou d'une voix qui se fait entendre. Alors j'utiliserai aujourd'hui et souvent le terme « mon bien-aimé » pour lui et « ma compagne » pour elle. Parce qu'en fait, ce sont les termes les plus utilisés dans tout le cantique les concernant. Alors comme beaucoup d'autres avant moi, je distingue trois parties dans ce cantique. Le premier, le temps des fréquentations jusqu'au chapitre 3, verset 5. Deuxièmement, le mariage jusqu'à 5, verset 1. Et troisièmement, la vie commune de ce bien-aimé, de cette compagne qui s'aime. La dernière fois, nous avons vu la première partie du temps des fréquentations que j'avais intitulée « L'éveil de l'amour ». Nous avons vu que le chant commence directement avec passion. Et nous avons terminé par ce bouton pause que l'on a parfois dans ce cantique qui dit « n'éveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite ». Et ce refrain arrive souvent, enfin on le verra encore aujourd'hui, il arrive au moment où les passions veulent se déchaîner quelque part. Et là il y a comme un bouton pause, n'éveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. Aujourd'hui c'est dans ce Cantique 2, 8, c'est une nouvelle strophe qui est chantée. En fait, la Sulamite sera la seule voix qui se fera entendre dans tout ce qu'on a lu ce matin et qu'on va voir. Mais elle nous rapporte les paroles de son bien-aimé. Donc c'est elle qui parle, mais elle va parler de ce que lui, il dit. Ok ? Donc on va voir ça ici ce matin. Et nous verrons ensemble les quatre parties qu'elle nous raconte ici. La première, eh bien nous verrons l'approche de son bien-aimé. Son bien-aimé arrive. Deuxièmement, elle va nous parler de l'invitation de son bien-aimé. Il l'invite, viens. Et ensuite, nous verrons l'engagement entre les bien-aimés et nous terminerons par l'attente de la bien-aimée. Donc la première chose qui se passe ici, c'est l'approche de son bien-aimé. Dans cette première partie de l'approche du bien-aimé, nous allons voir deux aspects importants. Premièrement, le courage et la persévérance du bien-aimé que la compagne constate. Et deuxièmement, nous verrons le respect et la douceur du bien-aimé tout motivé. Alors commençons par le courage et la persévérance du bien-aimé. Alors je vous encourage à toujours avoir vos Bibles ouvertes dans le Cantique des Cantiques. Là, je vais vous paraphraser le verset 8. Vous pouvez déjà le regarder, ensuite on va le lire, simplement pour comprendre. On a déjà fait un peu cet exercice la dernière fois. Je ne suis pas sûr que je ferai ça tout le temps dans tout le livre des Cantiques, mais aujourd'hui on va dans cette direction aussi. Donc si je paraphrase le verset 8, elle chante « Je l'entends, il vient, il traverse toutes les difficultés pour venir vers moi. Quel courage, quelle persévérance, quel entrain !» Et si je vous lis le texte cette fois-ci, c'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. En fait, la jeune fille se réjouit dès qu'elle entend la voix de son bien-aimé. Elle se réjouit dès qu'elle entend la voix de son bien-aimé. Tout son être est en éveil. Elle l'aime tellement qu'elle anticipe son arrivée avec impatience. Il n'est pas encore là, mais pour elle, il est déjà un peu là. Donc la jeune fille se réjouit dès qu'elle entend la voix de son bien-aimé. Tout son être se met en éveil, elle l'aime tellement, elle anticipe son arrivée avec impatience. Et elle constate qu'il vient vers elle. Il ne va pas n'importe où, il vient vers elle. Et les montagnes et les collines des difficultés qui peuvent être liées à leur statut différent, une distance géographique ou toute autre difficulté, il avance courageusement et avec persévérance. Et le cœur amoureux de sa chérie le voit même sauter, bondir, tellement il est motivé de la rejoindre. Et elle fond d'amour en voyant son courage et sa persévérance. Après le courage et la persévérance, le respect et la douceur sont soulignés. Si je vous paraphrase le verset 9, elle chante ceci, « Mon bien-aimé est motivé, doux et remuant. Il vient jusqu'aux limites fixées. Il patiente avec intérêt. » Cherchant à me voir. » Et si je vous lis le texte, il est dit « Mon bien-aimé est semblable à la gazelle au fond des biches. Le voici, il se tient derrière notre mur. Il observe par la fenêtre, son œil brille au treillis. Si je vous parle de faon et de biche, qu'est-ce que ça vous évoque ? La puissance ! La force ! Pas trop, hein ? Moi, je vois plutôt de la vivacité et de la grâce. Hein ? Le bien-aimé est derrière le mur. Intéressant aussi ici. Ce qui signifie que sa compagne n'a encore pas quitté son père et sa mère. Il y a un mur, il y a une distance encore entre eux. Et le bien-aimé ne va pas détruire le mur. Il ne va pas le faire tomber ou l'escalader. Il se tient derrière et il observe par la fenêtre. Donc le bien-aimé ne vient pas détruire ce mur, le faire tomber ou l'escalader. Il se tient derrière et il observe par la fenêtre. Il est intéressé par ce que fait sa bien-aimée. En fait, il utilise les possibilités existantes, là, c'est là, représentées par la fenêtre, pour apprendre à la connaître, savoir ce qu'elle aime. Chaque information ou découverte le remplit d'amour pour elle. Alors, quelques réflexions en lien avec le couple. Alors, comme pour toute réflexion pour le couple que nous avons dans cette série, j'encourage les célibataires et les enfants à plusieurs choses. Voici les quelques éléments pour lesquels je vous encourage. Premièrement, ne fermez pas les oreilles lorsqu'il est question du couple, parce que vous avez une responsabilité dans le soutien et l'encouragement des couples. Deuxièmement, pour plusieurs célibataires et enfants, vous allez une fois vivre la vie de couple, et il est préférable de se préparer très tôt, avoir de saines habitudes, une réflexion biblique à ce propos. Et pour les célibataires qui le sont pour un peu plus longtemps ou qui le sont redevenus, il est bon de continuer d'avoir de bonnes relations dans lesquelles beaucoup de principes pour les couples, mis à part la sexualité, sont utiles à vivre. Ceci dit, quelques réflexions en lien avec ce premier point de l'approche du bien-aimé. Vous avez remarqué que malgré le fait que la compagne est active et est pleinement impliquée, c'est le bien-aimé qui vient vers elle. C'est lui qui passe les montagnes et les collines. Il fait preuve de courage, de persévérance, de respect. Et ce sont des qualités que les hommes doivent entretenir et vivre avant et pendant le mariage. Cela nous engage donc à nous poser des questions, chers collègues hommes et jeunes garçons. Sommes-nous courageux, persévérants et respectueux ? Nous constatons aussi que la compagne se réjouit à la vue de son bien-aimé. Elle le décrit avec bienveillance et reconnaît ses actions. Ce sont des qualités que les femmes doivent entretenir et vivre avant et pendant le mariage. Cela vous engage donc à vous poser la question : vous réjouissez-vous de la présence de celui que vous aimez et avez-vous des paroles bienveillantes et qui reconnaît le bien qui est vécu ? Vous aurez compris dans la paraphrase et la description du texte que nous pourrions encore tirer plusieurs applications de ce texte. Mais j'aimerais aussi voir quelques réflexions pour notre relation spirituelle. Notre bien-aimé est venu de bien plus loin que tous les bien-aimés. Il a sauté les montagnes de l'acceptation d'un abaissement inimaginable. Il a bondi sur les collines des plus grandes luttes avec le plus terrible des ennemis, pour venir vers nous par amour et avec respect. C'est la voix de mon bien-aimé. Avons-nous le cœur qui bat lorsque nous entendons le Seigneur Jésus-Christ ? Quel soulagement, quelle joie qu'il soit venu vers nous, parce que nous n'aurions jamais pu aller vers lui. Son amour est prouvé par tout ce qu'il a fait pour nous. Appuyons-nous donc sur son amour pour vivre notre amour à son égard, ainsi que notre amour à l'égard de nos conjoints et de nos amis. L'approche du bien-aimé. Après l'approche du bien-aimé, la compagne du Cantique des Cantiques continue son chant par nous expliquer l'invitation de son bien-aimé. C'est les versets 10 à 14. Elle explique qu'il prend la parole. Elle nous dit ce qu'il dit. Il l'invite à deux reprises même. Il ne fait pas qu'une invitation, il en fait deux. Hein, si vous regardez dans le texte, on va le voir ensemble. Deux fois, il dit « Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens. » Alors, j'ai une question que je pourrais vous poser. Comment réagissez-vous aux invitations que l'on vous fait ? Bon, ça dépend de qui et pourquoi, évidemment. Je comprends. Mais ce que je peux déjà dire, c'est que notre réponse à une invitation démontre notre amour pour celui qui nous fait cette invitation. Ici, la compagne nous indique que le bien-aimé l'invite deux fois et à chaque fois, il donne une raison de répondre à l'invitation. Il donne des raisons, il ne dit pas juste « viens », il donne des raisons. Et on va commencer par la première invitation que j'intitule « Viens, c'est le bon moment ». Alors si je paraphrase les versets 10 à 13a, elle chante ainsi « Mon bien-aimé me parle, il m'invite à venir, il m'explique que c'est le bon moment, que nous sommes prêts pour être ensemble. » Alors je vous lis le texte aussi, verset 10. « Il prend la parole, mon bien-aimé, il me dit « Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens. Car voilà, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Dans le pays, les fleurs paraissent, le temps de psalmodie est arrivé. » Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Le figuier forme ses premiers fruits et les vignes en fleurs exhalent le parfum. Le bien-aimé a pris la parole. Il n'a pas attendu qu'elle vienne à lui pour l'inviter à l'accompagner. Et quand il l'invite, il lui indique qu'il a réfléchi à leur situation. Le temps de l'hiver, qui était la préparation de la vie, l'enfance et le temps de recevoir les bases de la vie, est maintenant accompli. La pluie a cessé. Il voit une situation à lui proposer. Les fleurs paraissent, les premiers fruits sont visibles et la récolte s'annonce bonne. Il a une situation à lui proposer. Selon ce qu'il a pu préparer et constater, rien ne devrait leur manquer. Il donne plusieurs éléments qui manifestent le fait qu'ils ne manqueront de rien. Ça me fait penser au bon conseil d'Olivier Urbain dans ses romans. Hein. Lorsqu'un jeune homme invite une jeune fille à partager sa vie, il va lui présenter une situation. Et tant qu'il n'a pas de situation, ben il attendra, il travaillera pour avoir une situation. Le bien-aimé ne pense pas seulement à un moment intime sans lendemain. Il ne cherche pas une relation pour la relation. Comme c'est tellement souvent le cas. Il a réfléchi pour la saison de la vie dans laquelle ils sont. C'est une demande raisonnée et raisonnable, même si ces sentiments sont bien entendu présents et le rendent joyeux et prêt à psalmodier avec sa compagne. Évidemment, les sentiments sont là. Mais vous savez que dans la société actuelle, c'est beaucoup moins poétique et sérieux. Le moment pour avoir des relations sexuelles encouragées par la plupart des cours d'éducation sexuelle, c'est lorsque tu en as envie. Et l'important est de te protéger pour que le fruit de la relation sexuelle ne soit pas un enfant. Voilà la situation actuelle. Et j'aimerais faire une petite remarque ici. L'enseignement actuel fait croire que pour être heureux, il faut être actif sexuellement. Ça, c'est ce qu'il y a derrière. Pour être heureux, il faut être actif sexuellement. Mais la Bible ne lie pas le bonheur à la pratique de la sexualité, mais à l'obéissance au Créateur qui nous connaît parfaitement et qui seul peut nous donner le bonheur durable qui n'est pas directement lié à des plaisirs passagers. Là, je veux dire que je ne peux pas tout expliquer ici, mais je veux donner un élément clé fondamental. La sexualité n'est pas un besoin fondamental. Comme respirer, manger, etc. La sexualité n'est pas un besoin fondamental. Jésus ne l'a pas pratiqué, il était un humain complet, parfait et accompli. Donc ne croyez pas au mensonge de la pratique de la sexualité pour être heureux. C'est faux et destructeur. C'est faux et destructeur parce que cela conduit à l'exploration de toutes sortes de pratiques, car aucune ne donnera satisfaction et mènera au bonheur. La Bible enseigne que la sexualité est un don de Dieu pour les couples mariés. Proverbe 5, par exemple, 18-19, souligne cette joie. Hein, ça c'est les jeunes couples, ils le connaissent, ce passage qui dit « Que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » On se croirait dans le Cantique des Cantiques, c'est Proverbe. Et Hébreux 13, 4 nous donne aussi un élément important sur l'importance de préserver ce lieu du lit conjugal. Hein, Hébreux 13, 4, il a dit que le mariage soit honoré de tous, donc tout le monde est impliqué, hein, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc la sexualité est un don de Dieu, c'est beau et c'est bon, dans le cadre voulu par Dieu, qui est le mariage dans lequel nous vivons en se donnant l'un à l'autre par respect et amour. Mais revenons à notre cantique des cantiques. La compagne nous raconte que son bien-aimé ne l'invite pas seulement une fois, en lui disant que c'est le moment, c'est bon, là, j'ai une situation, hein, mais il l'a fait une deuxième fois. Il est conscient que la crainte peut saisir sa bien-aimée. J'ai intitulé la deuxième partie « Viens, n'aie pas peur ». Et si je paraphrase les versets 13b à 15, elle chante ainsi « Mon bien-aimé m'invite une deuxième fois ». Il comprend que je suis timide, que mon seul moyen de défense est de me cacher. Il veut me faire sortir de mon lieu de refuge. Il m'aime, il aime ma voix et qui je suis. Il demande même que tout ce qui pourrait nous faire du mal soit écarté, afin que je sois rassuré. Alors je vous lis le texte, que vous avez le texte aussi biblique en tête. 13b, « Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens !» Ma colombe, dans les creux des rochers, dans les secrets des escarpements, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est charmant. Saisissez pour nous les renards et les petits renards qui ravagent les vignes, alors que nos vignes sont en fleurs. Le bien-aimé, dans sa seconde demande de venir, tient compte de ce que peut vivre sa compagne, en fait. Il a observé et il sait qu'elle peut avoir des réticences. Qu'elle est vulnérable, comme une colombe en fait. Une colombe n'a aucun moyen pour se battre contre ses prédateurs. La seule manière que la colombe a pour partir d'un prédateur, c'est de se cacher. C'est de fuir et se cacher. Et c'est ici, c'est ce qu'il souligne, de se mettre à l'abri. Donc tout en la respectant, il l'encourage ici. Il lui demande juste un signe de sa présence, qu'elle lui indique qu'elle est bien là et qu'elle lui parle, car lui aussi a besoin d'être rassuré. Il y a un échange ici. Tout en la respectant, il l'encourage. Il lui demande juste un signe de sa présence, qu'elle lui indique qu'elle est bien là et qu'elle lui parle, car lui aussi a besoin d'être rassuré. Et ensuite, il y a ces questions de renards, là. Alors, qui demande que les renards soient saisis ? Est-ce lui, est-ce elle ? Et à qui cette demande est-elle adressée ? Alors, ce n'est pas facile à trancher concernant à qui cela est demandé, mais le « nous » nous aide à comprendre que c'est un bien commun et que chacun est concerné par ces renards. Le fait qu'une demande est faite à quelqu'un d'autre, bien que le bien-aimé ou la compagne nous indique que les fréquentations et le nettoyage... Non, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Désolé, je suis en train de me perdre. Donc là, ce qui se passe, c'est que le fait que la demande est faite à quelqu'un d'autre, hein, quand il est dit au verset, il faut juste que je retombe chez moi, là. Saisissez, verset 15, hein, saisissez, donc on demande à quelqu'un, saisissez pour nous les renards, le fait que la demande est faite à quelqu'un d'autre indique en fait que les fréquentations sont quelque chose de public, c'est pas juste quelque chose qui se déroule entre deux personnes, et que souvent même on a besoin d'aide des autres pour vivre la fréquentation d'une manière qui honore Dieu, d'une manière qui aide aussi à nettoyer ce qui doit être nettoyé dans les relations et dans les vies. Les renards peuvent faire des dégâts dans leur vie respective. La vigne représente leur personne. On voit des images. Hein, la vigne, ici, représente les personnes, comme au verset 12, c'était le champ qui représentait leur vie. Ici, c'est la vigne, etc. Et ces renards peuvent être toutes sortes de choses qui empêchent de bien vivre le couple, que ce soit des mauvais enseignements reçus, des mauvais traitements subis, de mauvaises habitudes, de mauvaises expériences, des peurs, des péchés personnels ou tout autre élément qui peut faire des dégâts dans une vie. Il est important de mettre en ordre tout ce qui est connu et visible, de ne rien cacher dans ce moment important où la vigne est en fleur. Donc c'est-à-dire le moment où la vie est prête à être vécue dans une relation conjugale à long terme avec un engagement. quelques réflexions en lien avec le couple. L'amour invite. C'est important ce mot. L'amour invite. C'est pas l'amour oblige ou l'amour manipule. Non, l'amour invite. Et l'invitation est faite par le bien-aimé. C'est lui qui prend les risques. Ça, c'est aussi un élément intéressant. Au moment où on me dit, je suis vieux, je dis que c'est l'homme qui devrait demander à la femme et puis pas l'inverse. Mais franchement, Dieu a équipé les hommes d'une manière différente que les femmes pour faire face à des refus, pour faire face à des situations où c'est plus difficile. Nous sommes, en tant qu'hommes, équipés pour prendre cette responsabilité. Alors, bien entendu, il faut apprendre à se connaître. Ça ne veut pas dire que la fille ne dit rien, elle attend, je n'ai pas dit ça. Hein. Des fois, il faut un peu faire du pied, il faut un peu encourager, il faut montrer. Et chaque personne qui a ici marié peut raconter son histoire, puis on se rendra compte que bah, y a toujours un petit peu des deux côtés où ça travaille, c'est normal. Hein. Constatez aussi ici que le bien-aimé vient deux fois. Il est persévérant. Il montre dans un premier temps son souci pour l'avenir. Hein, il n'invite pas pour un profit personnel, mais ayant réfléchi à la saison de vie, qui annonce aussi l'accueil de fruits de l'amour. On ne s'engage pas dans une relation sans réfléchir à l'avenir. Sinon, ce n'est pas le bien de l'autre que nous cherchons, mais la satisfaction de nos désirs. Si quelqu'un veut entrer dans une relation sans réfléchir à l'avenir, c'est-à-dire « allons ensemble, on verra bien », il ne cherche pas l'amour, il cherche à satisfaire ses désirs. Vouloir une relation avec un gars ou une fille sans réfléchir à l'avenir, en se disant que ce n'est pas pour le mariage, mais qu'on en a envie et que les autres le font aussi, que ce serait vraiment trop bien d'avoir un petit copain, une petite copine, ce n'est pas de l'amour, c'est de la convoitise. Dans un deuxième temps, il rassure ici, il indique qu'il comprend qu'elle a besoin de temps. Il lui indique qu'elle est précieuse pour lui et qu'il veut que tout soit en ordre dans leur relation. Demandez et patientez. C'est important. Ça peut parfois être éprouvant. C'est vrai que je l'ai vécu quand j'ai dit à mon épouse « Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens !» Eh bien, elle a eu besoin de 6 mois pour sortir du creux du rocher et du secret des escarpements pour me répondre. Alors que nous vivions dans la même église. Mais si nous ne sommes pas patients avant, le serons-nous après? Comme c'est la compagne qui nous chante tout cela dans le cantique, nous pouvons aussi saisir qu'elle comprenait ce qu'il se passait. Elle était consciente de la situation. Elle n'a pas méprisé son bien-aimé ici. Mais jeune dame, ne méprisez pas ceux qui vous font la cour. Vous avez le choix. Pas dire que quelqu'un fait la cour, vous devez dire oui, vous avez le choix. Mais ne les méprisez pas. C'est une blessure profonde que vous infligez si vous le faites. Et si vous méprisez cette fois, qui vous dit que vous ne le ferez pas par la suite, même avec votre futur mari, ou dans le cadre du mariage, ou dans toutes les relations? Quelques réflexions dans notre relation spirituelle. Je vous ai dit un peu plus tôt que notre réponse à l'invitation démontre notre amour pour celui qui nous fait cette invitation. L'amour invite. Savez-vous que nous avons un bien-aimé qui nous dit « Aujourd'hui, c'est le salut. Aujourd'hui. Ce n'est ni demain, ni hier. Et ce sera le cas tant que l'on peut dire « aujourd'hui ». Vous ne savez pas demain si vous êtes là. C'est maintenant, aujourd'hui, que vous recevez cet appel. Jésus-Christ, le bien-aimé, t'appelle et te dit « Lève-toi, ma compagne, ma belle, viens. Le temps de psalmodier est arrivé. Montre-toi, car ta voix est douce et ton visage est charmant. » J'ai une question. Est-ce que vous avez déjà ressenti de l'amour de quelqu'un envers vous? Est-ce que vous avez déjà ressenti de l'amour comme ça, que quelqu'un vous aime? Est-ce que vous avez déjà reçu consciemment un amour profond et bienfaisant? Ben, Jésus-Christ a un amour encore 1000 fois plus grand que cela. Et il invite encore aujourd'hui. Et il est capable de saisir tous les renards qui ravagent les vignes. Pour ceux qui sont en Christ ici, continuez à inviter. Il continue. Christ nous continue à nous inviter à vivre pleinement avec lui. Il continue à nous inviter. Et à chaque fois que nous entendons sa voix, que nos cœurs bouillonnent. Ce n'est pas seulement avant le mariage qu'on se réjouit que notre conjoint nous appelle, ou etc. C'est aussi pendant. Ce n'est pas juste avant la conversion, si vous voulez, qu'on entend l'appel, « Waouh, magnifique !» Après, bon, on est converti, après c'est bon, quoi. Ben non. Nous répondons à cette... Et nous avons de la joie, du plaisir, comme les fiancés lorsqu'ils savent qu'ils vont pouvoir passer du temps ensemble. On va pouvoir passer du temps ensemble. On s'en réjouit à l'avance. Il y a même déjà de la joie, même quand on n'est encore pas ensemble, déjà d'y penser. Et cela, nous pouvons le vivre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est proche de nous, il nous aime d'un amour complet. Et chez lui, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Il est parfait. Et pour ceux qui ne connaissent pas cet amour, qui n'ont jamais compris ou saisi cet amour de Jésus-Christ, peut-être entendu parler pendant des années, vous n'avez jamais saisi ça, vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez jamais vécu ça. Bien moi, je vous invite à le recevoir. Quelque part, de demander même pardon à Jésus-Christ d'avoir refusé, rejeté son amour depuis si longtemps. Et de le recevoir en ayant confiance qu'il peut nettoyer nos vies. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions autour de vous. Il y a des personnes ici qui connaissent le Seigneur, vous pouvez dire, est-ce que Jésus-Christ est dans ta vie? Oui, alors que j'ai des questions à te poser. Voilà, on est là pour ça, ou moi-même, ou d'autres bergers de l'Église. Et continuons dans le cantique. Dans le cantique, après l'invitation, nous voyons l'engagement entre les bien-aimés. C'est la suite, les versets 16 et 17. Un engagement très fort et en même temps prudent. La compagne ne veut pas compromettre leur relation en laissant les renards du désir trop fort avant le mariage venir gâter leur union. L'engagement reste donc ici deux facettes, l'appartenance et la prudence. Alors commençons par l'appartenance. Le bien-aimé fait entendre sa voix, elle confirme l'appartenance de l'un vis-à-vis de l'autre, c'est le premier engagement mutuel qui est prononcé. Si je paraphrase le verset 16, elle chante « Nous nous sommes engagés, nous nous appartenons l'un à l'autre et mon bien-aimé est entré dans ma vie. » Ça c'est le verset 16. Si on le relit dans nos Bibles, « Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui, il fait paître son troupeau parmi les lys. » Ce refrain d'appartenance reviendra en Cantique 6.3, où là, elle commencera par dire qu'elle est à son bien-aimé. Ici, c'est lui qui est à elle, puis ensuite, ça sera elle qui est à lui. Hein ? On verra par la suite qu'est-ce que ça signifie. Et on verra même au chapitre 7 que l'expression sera encore un peu modifiée pour signaler une passion de son bien-aimé pour elle. Mais ça, on le verra plus tard. Cette appartenance réciproque ici, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui, cette appartenance réciproque est le fondement de cette relation harmonieuse et passionnée. C'est le fondement de cette relation harmonieuse et passionnée. C'est un engagement qui est d'abord pris de façon morale, de façon raisonnée et responsable, pour ensuite être vécu dans la relation. C'est le oui de la compagne à l'invitation du bien-aimé. Elle lui a dit « Viens !» Et sa réponse, la voilà, « Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. » Mais si le bien-aimé a commencé à faire paître son troupeau parmi les lys, c'est-à-dire qu'il a commencé à partager ce qu'il vivait avec elle, des réflexions, des idées, ce qui faisait partie de ses aspirations, ses rêves, ses attentes, enfin tous ses troupeaux, quoi, hein, et ses désirs parmi elle, parmi les lys de sa bien-aimée, qui sont les partages de elle envers lui. Et là, tout à coup, elle appelle à la prudence. Alors si je paraphrase le verset 17, avant qu'il ne soit trop tard et que la nuit s'avance, retourne. Comme tu es venu, fais face aux montagnes, aux collines des défis qui sont devant nous. Attention, verset 17. Avant que le souffle, la brise du jour et que les ombres fuient, retourne, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle au fond des biches sur les montagnes découpées. Alors, je dois quand même vous avouer quelque chose. C'est que ce verset m'a fait réfléchir longtemps. M'a fait beaucoup travailler. Parce que je ne peux pas me baser sur le texte juste français, parce que c'est de la traduction. Il faut un petit peu aller voir qu'est-ce qu'il y a là derrière, évidemment. Donc là, j'ai dû vraiment beaucoup travailler ce texte, et là, je vous livre un peu ce que j'ai pu un peu trouver. Le fait qu'elle soit seule au verset suivant, en fait, nous aide à comprendre qu'il est parti. Ça, c'est un élément. Verset suivant, il n'est plus là. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même eu un départ ici. Le fait qu'elle a du souci de ne plus le trouver peut aussi nous aider qu'elle lui a demandé de partir. Et l'image des montagnes du verset 8, des versets 8 que l'on a ici comme en écho, nous aide à comprendre que cela doit illustrer une même réalité qu'au verset 8. Puisque certains donnent une connotation plutôt sexuelle à cette partie-là. Mais si on regarde au verset 8, ça n'était pas le cas à ce moment-là. Et on voit ici comme un écho, avant de partir dans le rêve de la compagne. La compagne vient d'exprimer un engagement réciproque. Elle a indiqué qu'il était entré dans sa vie, et elle est prudente. Elle ne veut pas être brusquée, même après avoir répondu positivement. Elle veut continuer à voir son fiancé bien-aimé faire face aux défis de la vie. C'est souvent la femme, dans un premier temps, qui raisonne l'homme dans la relation. Parce que, fougueux comme il va aller trop vite. C'est les hommes. C'est une qualité. Parce qu'il faut être fougueux pour protéger, pour prendre en main, pour diriger. C'est très bien. Mais il y a des situations où il ne faut pas être fougueux. Et là, elle raisonne. Elle lui dit là, « Avant que le souffle, la brise du jour et que les ombres fuient, retourne, mon bien-aimé. Sois semblable à la gazelle. » Puis là, elle reprend les éléments du verset 8 qui parlait de sa venue par toutes les situations difficiles. Donc chaque étape positive et encourageante, quelque part pour l'homme, lui donne des ailes. Il trépigne comme un petit faon gambadant dans les prés. On a aussi ces images qui sont données ici. Or, quelques réflexions aussi pour les couples. Il est dit dans ce texte, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » C'est un engagement d'exclusivité. C'est un engagement pris dès qu'un jeune homme se met avec une jeune fille. Quand un jeune homme a invité une jeune fille à mieux apprendre à la connaître et qu'elle a accepté, ils ne vont plus vers d'autres personnes. Pourtant, ils ne sont encore pas mariés. Et dès que l'alliance du mariage est conclue, il n'y a plus de questions à se poser. Chacun appartient à l'autre. Chacun devant Dieu est uni à l'autre. Et durant toute la vie, et ils vont travailler ensemble à approfondir cette relation. Dans le Cantique des Cantiques, comme nous sommes encore dans le temps des fiançailles, mais plus tard, nous verrons qu'il y a des moments moins faciles dans le couple. On le verra dans le Cantique des Cantiques. C'est la raison pour laquelle que dès les fréquentations, il doit être clair que l'alliance du mariage est quelque chose qui unit deux personnes pour toujours. Il n'y a pas de séparation ou de divorce qui est une option imaginée ou encore moins prononcée dans un couple. Et c'est déjà avant que l'on prend cette résolution-là. Ce n'est pas après. Et si vous ne l'avez pas prise, cette résolution, et qu'il vous est arrivé de manipuler l'autre en disant que vous allez divorcer s'il ne fait pas ceci ou cela, repentez-vous, parce que vous êtes sorti du cadre de l'enseignement de Dieu. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. C'est fondamental dans un couple. Est-ce que les couples peuvent le dire sincèrement ici? Est-ce que vous pouvez prendre un moment avec votre époux, votre épouse aujourd'hui, et vous regarder et puis dire, « Mon bien-aimé, tu es à moi et je suis à toi, ou ma bien-aimée. » C'est important. Est-ce que ceux qui sont seuls encouragent les couples à dire cela? Ou bien ils cherchent à les séparer pour les avoir un peu pour eux? Généralement, quand on cherche à séparer, on les a moins pour nous. Un couple uni, on en a plus. Et est-ce que les jeunes se préparent à vivre et à être à son ou sa bien-aimée? Être à l'autre, ce n'est pas moderne. Ce qui est moderne, c'est l'autre est à moi. C'est tout. Mais il y a les deux sens ici. Quelques réflexions spirituelles ici. Quel glorieux message lorsqu'en pensant à Jésus-Christ, nous pouvons dire « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Vous imaginez ? Jésus-Christ, ça signifie que tout ce qui est à moi lui appartient. Tout mon péché, ma condamnation, il le reçoit. Et tout ce qui est à lui m'appartient. Sa justification, sa rédemption, un amour infini, bienveillant, passionné, totalement fidèle. Mon bien-aimé Jésus-Christ est à moi et je suis à lui. Quelle glorieuse vérité! Est-ce que vous pouvez dire cela de tout votre cœur? Est-ce que vous en êtes certain que lui dit aussi cela de vous? Le cantique des cantiques continue. La compagne est dans l'attente ici, au chapitre 3. J'ai intitulé cette partie « L'attente de la compagne ». De la compagne. Donc en Cantique 2, 17, nous avons compris que la compagne a renvoyé son bien-aimé à ses défis. Et voilà que la nuit arrive et la nuit amène les réflexions et les rêves. Je vous ai déjà fait des rêves, mais... Et si je paraphrase Cantique des Cantiques 3, 1 à 3, elle chante « J'ai rêvé que je cherchais mon bien-aimé chez moi, dans mon lit, mais il n'y était pas. Je suis sorti, j'ai cherché mon bien-aimé partout. » Ceux qui nous protègent m'ont trouvé, je leur ai demandé, désespéré, où était mon bien-aimé ? J'intitule cette première partie « Une recherche active ». Alors si je lis le texte tel qu'il est, il est dit « Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai donc et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» L'angoisse. Si je le perdais. Ah, les rêves, c'est terrible. Hein, je l'ai renvoyé. Est-ce que je le retrouverai? Je n'aurais pas dû le repousser. Nous voyons ici un cœur chamboulé, un questionnement, un désir de retrouver l'autre pour cheminer ensemble sur le chemin de l'unité. Mais vous savez, il est aussi possible d'être à côté de l'autre physiquement, mais de le chercher. Les couples connaissent ça, ici ils sourient. Chercher celui que mon cœur aime. Ce n'est pas seulement le chercher physiquement, c'est le chercher pour la vie commune dans le foyer, pour la vie publique commune, ce qui demande une unité de pensée, de direction, de vision, de manière de vivre ensemble. Et nous voyons ici que cette compagne fait des efforts. D'ailleurs, il y a un mot qui revient tout le temps. Hein. Chercher, 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 chercher. On le voit très fort ici. Elle doit se lever, elle fait le tour de la ville, elle va dans les rues, sur les places, et lorsqu'elle rencontre des personnes, elle les questionne. En fait, une relation demande de l'effort. Alors, c'est représentatif, c'est un rêve, hein, évidemment, mais ça nous montre qu'une relation demande de l'effort. Et s'il est dit « qui cherche trouve » dans Matthieu 7 et Luc 11, il est aussi dit que la vigne d'un paresseux est en mauvais état. Une relation demande de l'effort. Et s'il est dit « qui cherche trouve » dans Matthieu 7 et Luc 11, il est aussi dit que la vigne d'un paresseux serait en mauvais état. Je vous lis le proverbe 24 qui dit ceci. « J'ai passé près du champ de quelqu'un de paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les orties y poussaient partout. Les mauvaises herbes en couvraient la surface et son mur de pierre était abattu. » Impossible d'avoir une bonne relation en étant paresseux. Mais une bonne nouvelle, c'est qu'il y a du désherbant qui s'appelle la repentance et la foi, évidemment. La compagne n'est pas paresseuse ici. Elle cherche, elle cherche, elle cherche sans ménager ses efforts qui seront récompensés. Et le dernier verset qui continue le rêve de la compagne, je l'ai intitulé ainsi « Un attachement sérieux ». C'est les versets 4 et 5, et si je les paraphrase, je dirais ceci. Donc, elle chante, hein. « Dans mon rêve, j'ai dépassé ceux qui nous protègent et j'ai trouvé mon bien-aimé. Je m'y suis attaché. Je ne le laisserai plus s'en aller pour nous marier et nous unir. Oh, mes amis, je vois que je brûle de désir. Attention, ne réveillez pas la passion de l'amour avant que vous ne puissiez la vivre. » Donc, si je lis le texte biblique qui dit ceci. « À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi. Je ne le lâcherai plus jusqu'à ce que je l'ai introduit dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. » Si la compagne ici avait déjà pris des engagements avec son bien-aimé, elle passe ici à une étape supplémentaire. C'est l'attachement. Avant, c'était l'engagement. Ici, on arrive sur l'attachement. Elle l'a saisi et elle ne le lâchera plus. Alors, non pas comme une proie qu'elle voudrait garder alors qu'il se débat. Non. Non, avec un bien-aimé qui se réjouit de construire un avenir ensemble. Lui, il n'est pas en train de se débattre. Il est tout content qu'elle s'accroche à lui. Ne plus lâcher, c'est lui rester fidèle. C'est être attentif à la relation, c'est aussi avoir un but. Elle a un but ici. Donc ne plus lâcher, c'est lui rester fidèle, c'est être attentif à la relation, c'est aussi avoir un but. Et ici, c'est clair, l'introduire dans la maison de sa mère. C'est ça son but. Et si nous lisons Genèse 24, 67, qui nous parle de la manière dont Isaac a accueilli Rebecca, ben, ça va un peu nous aider. Il est dit « Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. » Elle était décédée, sa mère, à ce moment-là. « Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. » C'est ainsi qu'Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Donc le fait que la compagne indique ici que c'est la chambre où sa mère l'a conçue fait référence à la conception aussi. Sa mère l'a conçue là, à la conception. Et la conception est liée à la sexualité. Il ne faut pas le séparer. Aujourd'hui, au lieu de lier la conception à la sexualité, on a lié la contraception à la sexualité. Et ce n'est pas biblique. Et c'est profondément ancré, même en nous, par ces pensées de la société post-68. Combien de fois, si vous pensez à la sexualité, une des premières choses qui vient à l'esprit, c'est contraception. C'est pas biblique. C'est conception. Si vous voulez déjà être biblique. Il n'y a pas que la notion de conception. Il y a une notion de joie, de plaisir. On le voit dans le Cantique des Cantiques, on le verra encore. Et quelques réflexions donc en lien avec le couple. On a déjà vu des éléments ce matin, mais j'aimerais nous stimuler à ne pas être paresseux dans nos relations de couple. N'arrêtons pas de chercher où celui que notre cœur aime. Et lorsque nous nous sommes trouvés, ne lâchons pas, ne nous endormons pas en pensant que maintenant c'est bon, plus besoin d'effort, l'autre nous appartient. Non. C'est pour la vie et nous allons continuer à nous chercher. Et lorsque nous nous trouvons, de ne plus nous lâcher et désirer de vivre le plus proche possible, chercher l'intimité. Tout en ayant l'avertissement, le bouton pause si nous ne sommes pas encore mariés. N'éveillez pas l'amour avant qu'elle ne le souhaite, hein, c'est la fin du texte d'aujourd'hui. Par contre, dès la petite enfance, exerçons-nous, et faisons-le ensuite toute notre vie, avoir des relations saines avec ceux qui sont autour de nous. Nourrir de saines amitiés. Ce sera soit une préparation à la vie de couple, soit des relations importantes, et des relations importantes sur lesquelles nous nous appuierons toute notre vie. Alors, c'était un rêve qu'elle a eu ici. Un rêve n'est pas toujours très logique, hein, on est d'accord. Mais une chose est certaine, dans ce rêve, elle avait quelque chose de très fort. Elle a cherché son bien-aimé jusqu'à ce qu'elle le trouve. Si nous savons que notre bien-aimé a un amour parfait pour nous, n'hésitons jamais à le chercher. Parce qu'il y a des moments où nous pouvons nous sentir éloignés de Jésus-Christ. Je passe maintenant à cette pensée-là. Alors pensons à la compagne du cantique qui a cherché, qui s'est même levée, qui a parcouru la ville, qui a demandé où le trouver. Elle n'a ménagé aucun effort. Pourquoi ménagerions-nous nos efforts pour la relation la plus importante et la plus longue de notre vie? Vous saviez ça? La relation avec Christ est la relation la plus longue de notre vie. Parce qu'en fait, elle ne finira jamais. La relation dans le couple, bah, elle finit ici-bas. Pour ceux qui pensaient qu'au ciel, ils continueraient à être mariés, je suis désolé de vous décevoir. Le mariage au ciel, c'est avec Jésus-Christ. Ce n'est pas entre nous. C'est ici-bas que l'on vit cette vie de couple, qui est une image de l'œuvre de Christ. C'est pour ça qu'il est important de le vivre bien aussi ici-bas. Mais c'est avec Christ que nous vivrons éternellement. Donc pourquoi ne le chercherions-nous pas jusqu'à ce que nous le trouvions ? Et un jour d'ailleurs, notre bien-aimé fiancé céleste viendra nous chercher pour nous amener aux noces de l'agneau. Il l'a dit, il le fera. Puis nous, on dit chaque jour, Maranatha, viens Seigneur Jésus, hein, évidemment. Or ce matin, nous avons parlé de l'approche du bien-aimé, de l'invitation du bien-aimé, de l'engagement entre les bien-aimés, de l'attente de la compagne. Qu'allez-vous retenir ? Alors réfléchissez quelques instants et notez dans votre tête un élément que vous aimeriez prendre avec vous. Vous savez quand vous notez dans votre tête, c'est bon ? Pour ma part, quand j'écoute des prédications sans prendre de notes à la main, je me répète des choses plusieurs fois pour que ça reste dans ma tête, pour qu'ensuite je puisse m'en souvenir. Après, vous avez vos techniques. Peut-être que vous associez des couleurs ou des images, je ne sais rien. Voilà, qu'est-ce que vous voulez prendre avec vous ? Vous avez noté dans votre tête ? Je vous encourage à le partager avec quelqu'un après le culte. Et rappelons-nous que l'invitation n'est jamais obligatoire, que l'invitation n'est pas manipulation, mais que l'invitation est un don. C'est un don. Rappelons-nous aussi que l'engagement amène à une appartenance. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Les époux s'appartiennent l'un à l'autre, cherchant le bien de l'un et de l'autre. Et en Christ, Paul va jusqu'à dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce livre du Cantique des Cantiques qui nous pousse à réfléchir sur tant de sujets, mais qui nous permet aussi de comprendre petit à petit qu'il est à contre-courant, dans un monde qui se détourne de toi. Mais j'aimerais te dire merci, parce que ce cantique est beau. Et qu'en fait, ce que vivent ces deux bien-aimés, cette compagne et ce bien-aimé, eh bien, ce sont des choses qui, et nous le verrons encore par la suite, qui nous réjouissent. Nous sommes contents pour eux. Quelle tension lorsque tout à coup elle voit qu'il n'est plus là, qu'elle le cherche. Quelle joie lorsqu'elle le trouve. Seigneur, nous voulons te prier de nous donner une joie encore plus grande lorsque nous voyons celui qui cherche Jésus-Christ le trouver et être sauvé. Et pouvoir dire, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. C'est vrai Seigneur, c'est des conséquences qui sont énormes. Ça signifie que c'est toi qui es le maître de nos vies. Mais ça signifie aussi que le maître de nos vies n'est plus celui qui nous veut du mal, mais celui qui nous veut du bien. Qui nous a invités en nous disant qu'il peut pourvoir. Qui nous a invités aussi en nous rassurant. Et en désirant enlever tous ces renards qui ravagent les vignes. Éternel notre Dieu, nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir tourner nos regards vers toi. Et je te prie, Seigneur, de nous garder dans ta paix. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.